C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous allons assister aujourd'hui à la triste fin d'un souverain flamboyant, abandonné de tous. Le chat partit alors au Mexique et y arriva le 10 juin 1979. Kissinger, en coulisses, poursuivait son harcèlement de la présidence et menaçait à présent, si Carter n'accueillait pas l'ex-souverain, de ne pas donner son imprimature aux accords américano-soviétiques de limitation d'armement SALT II qui, sans lui, ne pouvaient aboutir. Le vice-président Walter Mondale rédigea un mémo. On interrogea les autorités iraniennes sur la faisabilité d'un accueil du Shah aux États-Unis sous condition qu'il renonçât au trône, ce qu'il n'avait pas fait, et qu'il s'abstint de toute déclaration d'ordre politique. Mais il fut répondu que cela constituerait un danger pour l'Amérique et pour son personnel local d'ambassade. Alors on se prit à rêver à Washington que lorsque la lutte du pouvoir entre laïcs et religieux serait terminée, la question de l'accueil du Shah pourrait être remise sur le tapis. Au début de l'automne 1979, il se dit que le chat souffrait d'une maladie abdominale non diagnostiquée. On sonda les Iraniens pour connaître leur réaction, si on autorisait la venue du chat aux États-Unis pour lui prodiguer des soins. Mais la réponse fut toujours la même, c'était un refus, avec de plus le constat que les Iraniens réagiraient très mal et que le pouvoir des Mollahs n'arrangeait pas le climat d'hostilité au chat. Pour les Mexicains, le chat souffrait d'une forme de paludisme, ce qui fut affirmé par un médecin américain dépêché sur place qui diagnostiqua un ictère, c'est-à-dire une jaunisse. Mais il suggéra qu'il serait bon que le chat vienne aux États-Unis se soumettre à une batterie de tests et d'analyses pour affiner un diagnostic, d'autant que l'état du malade s'était aggravé. En fait, et depuis des années, le chat souffrait d'un cancer sans que nul, même parmi ses proches, n'en fût informé. Quand ce ne fut plus dissimulable, on lui proposa plusieurs pays pour le soigner. Et il déclina toutes les propositions. À ses yeux, seul un hôpital américain pouvait lui offrir le traitement adéquat. Cela fut appuyé par le seul médecin américain qui l'eût examiné, en l'occurrence le médecin personnel Rockefeller, l'un des fervents partisans de l'accueil du chat aux États-Unis. Ne restait plus qu'à établir un rapport adroitement rédigé, à omettre les possibilités locales de soins, afin d'inciter Carter à accueillir le chat. Le 19 octobre, lors du petit déjeuner du vendredi matin sur la politique étrangère, le président Carter se retrouva seul à refuser d'accueillir le malade. Carter, compatissant pour des raisons humaines, s'inquiétait toutefois des risques pour les Américains présents en Iran et nul ne pouvait le rassurer sur ce point. Le 20 octobre, un autre rapport prétendit que le chat ne recevrait pas les traitements adéquats au Mexique, ce qui était absolument faux. En définitive, Carter prit la décision d'accueillir l'ex-souverain sans tester la réaction des Iraniens à son projet et sans auparavant évacuer les Américains de l'ambassade, persuadé que, comme en février, le gouvernement iranien en assurerait la sécurité. Le 20 octobre, un câble avertit le gouvernement iranien que le chat était en cours d'admission sur le territoire des États-Unis pour un traitement médical. Le même câble demandait au régime iranien de faire preuve de compréhension et de garantir la sécurité de l'ambassade. Le risque pris était énorme. La situation politique en Iran n'était pas stabilisée et les Américains n'avaient pas encore nommé un ambassadeur sur place, donc ne reconnaissaient pas encore officiellement le régime iranien. Le câble donnait l'impression d'une mise devant le fait accompli. Carter avait fait fi de toutes les recommandations prudentielles et avait pris une décision en contradiction totale avec sa propre position passée.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
The eagles cry hang on to used to be, live their lives looking behind.
All our lives are there to find.
The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love and
selon les Iraniens, quatre points devaient être respectés, ceux listés dans le câble envoyé à Washington depuis Téhéran par les diplomates américains. Point numéro 1, le Shah devait recevoir un traitement partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Point numéro 2, si le Shah devait recevoir un traitement aux États-Unis, ce devait être ailleurs qu'à New York, fief des sionistes et de Rockefeller. Point numéro 3, les médecins iraniens devaient pouvoir constater que la maladie du Shah était réelle, et qu'il ne s'agissait pas d'une ruse. Point numéro 4, le Shah devait s'engager à s'abstenir de toute activité politique et ne point donner d'interview. Un cinquième point non écrit faisait état du peuple iranien qui n'accepterait pas la décision américaine, estimant que la maladie du Shah était diplomatique. De plus, il n'était absolument pas mentionné l'engagement de protéger l'ambassade ni les citoyens américains présents en Iran. En fait, et quoi qu'il en coûtât, Carter avait décidé d'admettre le Shah pour hospitalisation en faisant fi de toutes les mises en garde. Le 22 octobre, le Shah arrive à New York dans l'avion privé Gulfstream de Rockefeller. Le Shah sera admis à l'hôpital de New York sous un nom d'emprunt, celui du sous-secrétaire d'État résolument opposé à l'accueillir, Dave Newsom. On va le soigner pour des calculs biliaires et une rate hypertrophiée. Quant au lymphome, les chances de guérison étaient de 50-50. L'ex-souverain n'était pas à l'article de la mort et eût pu tout à fait se faire soigner au Mexique. Rockefeller, Kissinger et le juriste et banquier McCloy avaient harcelé la Maison-Blanche pour obtenir l'aval de Carter, Kissinger invoquant des raisons humanitaires, lui qui dira plus tard que ces considérations ne doivent pas l'emporter sur l'intérêt national. Se pose la question restée sans réponse de la non-évacuation de l'ambassade préalablement à l'accueil du Shah. La Maison-Blanche faisait confiance à une sécurité renforcée prise sur place permettant de voir venir en attendant une aide extérieure. De plus, les Américains plaçaient une confiance excessive en la capacité du gouvernement laïque à protéger l'ambassade comme cela avait été le cas en février, comme si le temps s'était depuis figé. De plus, l'importance géostratégique de l'Iran passer avant la sécurité d'une ambassade. On refusa d'évacuer le personnel essentiellement bénévole en comptant sur son professionnalisme pour demeurer sur place. Carter, en cette année électorale, pour ne pas se mettre à dos des personnes influentes et le camp républicain, allait payer le prix fort par cette décision. Les zones d'ombre demeurent malgré les recherches érudites de William J. Dougherty en la matière. Quoi qu'il en soit, le 4 novembre, la prise de l'ambassade fut la réponse iranienne à la légèreté des Américains. Alors que des otages américains étaient détenus dans l'ambassade et que les étudiants preneurs d'otages réclamaient qu'on leur livre le Shah, voilà que Jimmy Carter l'accueillait et le faisait soigner. Après son hospitalisation, le chat s'enfuit à Panama où son arrivée fut chahutée par des manifestants universitaires qui tâtèrent au passage des méthodes musclées des services d'ordre du colonel Noriega. Une fois sur place, le chat ne fut pas en paix. La République islamique, représentée par des avocats français, vint demander l'extradition du souverain et les Américains, empêtrés dans l'affaire des otages de l'ambassade, s'apprêtaient à donner satisfaction au mollah. Carter conseillait à l'ex-souverain de repartir en Égypte, un pays frère, tout en demandant par téléphone à Sadat de ne pas donner asile au chat. Carter, soucieux de garder le chat à disposition, avait envoyé auprès de lui son conseiller particulier Hamilton Jordan, qui découvrit le roi des rois misérablement logé dans une petite chambre d'un casernement militaire. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique, Sodeq Godzabé, suggéra même à Jordan de faire empoisonner le chat par la CIA. Quant à Jordan, il conseilla au chat de rester au Panama pour une question de soins et Carter fit des pieds et des mains pour bloquer l'avion de l'ex-souverain sur le tarmac lors d'une escale aux Açores. Enfin, pour l'exilé, ce fut le retour en Égypte pour y mourir après ablation de la rate. Lorsqu'il décéda de la maladie de Waldenström, ce fut dans l'indifférence générale et il n'eut pas droit à des condoléances des Britanniques. On supposa que son état de faiblesse dû à sa pathologie diagnostiquée tardivement contribua à son apathie face aux événements qui précipitèrent sa chute et que la révélation de son état mortel pour celui qui se pensait une divinité et se faisait appeler roi des rois et lumière des Aryens contribua à le détruire. Sadat, qui était resté son ami quand tous le lâchaient, fit jouer l'hymne impérial et lui rendit les honneurs par 21 coups de canon, cortège impressionnant pour emmener son cercueil couvert du drapeau iranien jusqu'à la mosquée Al-Rifai. Derrière l'affût du canon tiré par 6 chevaux, on reconnaissait la famille impériale, des monarques déchus tels Constantin de Grèce, plusieurs milliers de soldats égyptiens, mais aucun chef d'État, juste des ambassadeurs. Et puis un Richard Nixon vitupérant contre l'administration Carter qui avait trahi un ami de toujours. Le cortège progressa sur 2 kilomètres sous un soleil de plomb sous les yeux de 100 000 personnes. Pour les dignitaires iraniens, la mort du chat était un détail sans importance. Pour les étudiants, qui avaient pris d'assaut l'ambassade et avaient réclamé l'extradition du souverain, ce qui à présent allait conditionner la libération des 52 otages, c'était la restitution par les Américains des avoirs du chat. Pour Sadat, le chat était celui qui, quitte à déplaire à Washington, avait non seulement fourni à l'Égypte médecins et aide médicale lors du conflit de 1973 avec Israël, mais avait autorisé les Soviétiques à survoler l'Iran pour apporter aux Égyptiens du matériel militaire. Ainsi se concluait misérablement la vie d'un empereur qui eût pu chanter « Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés ». Quant à Sadeq Godzabé, il fut récompensé peu de temps après ayant commis l'outrage de critiquer Roménie. Il fut incarcéré, puis fusillé. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, lors de notre prochaine rencontre, nous évoquerons les victimes collatérales de la révolution iranienne.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, C'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.